Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans La bouteille à moitié pleine. Aujourd'hui, je reçois un grand patron français du luxe, Marc Lelandais. Bonjour Marc.
Bonjour Viviane.
Tu n'es pas que patron du luxe, tu es aussi fondateur d'un musée, d'un extraordinaire musée, on en parlera plus tard. Alors je vais te poser la question rituelle dans cette émission, je pense que tu as écouté d'autres émissions. Quel petit garçon étais-tu ?
Un petit garçon espiègle, voilà, c'est ce qu'on dirait.
Je lis dans tes yeux que tu l'es resté, Marc.
Oui, oui, je pense qu'il faut rester un enfant toute sa vie. C'est ce qui permet de surprendre, de se laisser surprendre, et de se laisser aussi porter par des émotions et pas trop de rationalité dans un monde qui est ultra matérialiste, immédiat et rationnel. Donc la faculté d'avoir une âme d'enfant, c'est presque une exégèse, mais c'est aussi la liberté. Pour être heureux et pour être talentueux, il faut être libre.
Alors, ce petit garçon, je crois que tu es normand, c'est bien ça ?
Complètement.
Et tu étais bon à l'école ?
J'étais un élève dissipé, donc un peu espiègle, et qui choisissait ses matières. Donc, il y avait des matières qui me plaisaient et j'étais très bon.
Par exemple ?
Évidemment, la philo, l'histoire. J'aimais assez la physique et je détestais les maths.
D'accord. Alors, par la suite, on a vu que tu les as pas tant détestés que ça, mais enfin, on va en parler aussi tout à l'heure. Revenons à tes parents. Qui étaient-ils ? Que faisaient-ils ?
Mes parents étaient des commerçants. Des commerçants en prêt-à-porter qui avaient développé un réseau de magasins, puisqu'en fait, on était dans la famille, dans le tissu depuis 3 siècles. Alors, oui. Le lin, le chanvre, le tissu, la confection, puis le passage au prêt-à-porter dans les années 1960. Et donc, la tradition familiale s'est pérennisée et la distribution de prêt-à-porter a remplacé le tissu au mètre, ce qui était une école de la vie, une école du travail, comme n'importe quel commerçant qui
compte pas ses heures.
Qui compte pas ses heures, qui développe ses affaires, qui ouvre des magasin, qui s'occupe de ses vitrines, qui fait ses achats, et voilà, et au milieu de ça, on trouve finalement, je dirais, le goût de vendre et le goût du client, voilà, phénicien depuis très longtemps.
Alors, tu as un super CV études, tu peux nous en parler, parce que alors, le petit garçon espiègle, qui n'aimait pas trop les maths, il s'est dirigé vers les MBA Luxury Brand Marketing International Management. Pas mal.
Oui, j'ai un peu cumulé.
Un master à l'ESSEC, un 2 à sciences politiques. Alors ça, c'est plus bizarre là-dedans. Qu'est-ce que ça venait faire ?
En fait, au départ, l'idée, c'était d'abord une idée de culture générale. Pour moi, les études supérieures, au grand dam de mon père qui voulait que je fasse directement une école de commerce.
Ce qui était utile pour les magasins.
Moi, j'étais dans une toute autre approche qui était celle de contenter mes curiosités. Et de me nourrir de culture générale. Et évidemment, ça débouchait sur rien du tout. Il a fallu passer par pas mal d'étapes, et donc j'ai cumulé les diplômes supérieurs en faisant des DEA, des ESS, effectivement des masters, des MBA.
Un marketing obtenu en Sorbonne, je savais même pas qu'on pouvait faire ça en Sorbonne.
Absolument, et il y avait même c'était assez coté à ce moment-là. Et donc j'étais un produit de l'université française. Comme quoi, ça mène à tout, il n'y a pas que les grandes écoles. Et puis après, j'ai viré vers les grandes écoles, évidemment, parce qu'on n'y coupe pas, et parce qu'à un moment donné, il faut bien mettre des normes, il faut bien mettre des process sur ses intuitions. Donc, la culture générale, les intuitions d'abord, et puis ensuite, la méthode. Donc, on revient aux grandes écoles après.
Alors après, tu as cherché un travail.
Oui.
Et tu n'es pas rentré dans les affaires familiales.
Non, mon père a tout vendu.
Ah, d'accord.
Il a vendu ses sociétés en nous disant « vous ne ferez pas ça, vous ferez autre chose ». Ce qui est sans doute un bon coup de pied aux fesses quand on a 25 ans, parce qu'on se dit qu'il va falloir se débrouiller par ses propres moyens. Trouver sa voie. Et donc il fallait faire autre chose. Alors après avoir un peu réfléchi entre le parapublic et le privé, j'ai décidé de, de, d'aller dans le privé et je suis rentré chez Pierre Cardin. Ça a été.
Est-ce que c'est lui qui t'a recruté?
Oui, absolument, absolument.
Il paraît qu'il faisait tout lui-même, qu'il signait lui-même ses chèques avec un petit crayon.
Il avait. T'as vu les films de Louis de Funès,
oui.
Avec Bernard Blier, avec les petits chéquiers, les moyens chéquiers, les gros chéquiers, tout ça. Eh bien, il faut prendre cette ambiance-là pour comprendre le bureau de Monsieur Cardin en face de l'Élysée, avec une SARL de gestion qui pilotait 850 licences. Cet homme était complètement boulimique, curieux de tout. S'intéressant à tout, touchant à tout. Alors parfois il n'approfondissait pas, il n'allait pas tout à fait au fond des choses, mais il avait une vision planétaire de l'équipement de la personne, des produits d'équipement de la personne, qui était assez incroyable.
Il a même fait des meubles. Hein.
Ah, il a fait des meubles, tout. Je sais pas si tu te souviens, mais on appelait ça la cardinisation d'une marque dans les années 80. C'était pas vraiment flatteur, mais
non, c'était parce que c'était vraiment très grand public.
Oui. Mais il avait une marque qui était aussi connue que Coca-Cola en Chine, avant l'ouverture de la Chine et de la Russie. Donc, c'est intéressant quand même dans l'histoire des marques, la façon dont il avait créé ses licences un peu partout, dans le monde entier, avec des relations humaines très fortes souvent avec ses partenaires licenciés. En tout cas, pour un jeune qui démarre,
c'était
une école de commerce de premier niveau. Et je me souviens du rendez-vous que j'avais eu avec lui, c'était pour le parfum. Il venait de récupérer ses parfums et puis et il m'avait dit, voilà, moi je voudrais qu'on les développe. Voilà, vous toucherez 5% du chiffre d'affaires.
C'était déjà très intéressant.
C'était énorme.
Alors, tu as choisi des musiques qu'on n'écoute pas fréquemment sur Radio Cité Genève. Est-ce que tu peux nous l'annoncer?
Oui, alors le Freischütz de Weber, qui est une marche très entraînante et très forte.
Qui te convient bien.
Voilà.
On l'écoute.
Radio Cité Genève.
La bouteille à moitié pleine.
Thank you.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans la bouteille à moitié pleine avec un grand patron français du luxe, Marc Lelandais, dont nous venons de voir qu'il a débuté chez Pierre Cardin, qui s'est montré, ma foi, assez généreux dès le départ.
Oui, complètement. À la fois hyper créatif, touche à tout, boulimique, et lançant des jeunes en leur disant bah allez-y, voilà, vous soyez des businessmen, tentez, osez, ayez de l'audace, et voilà, ils nous rémunéraient très bien sur la base du chiffre d'affaires que l'on générait. Donc c'était de la création de valeur pure. Comme premier job, on pouvait pas rêver mieux. On était un peu en dehors des, je dirais, des voies royales quand on entrait chez Pierre Cardin à ce moment-là.
Tu es resté combien de temps chez Pierre Cardin ?
Je suis resté 3 ans.
3 ans. Mmh. Et qu'est-ce qui t'a fait partir ?
L'envie d'avancer, l'envie de faire.
Alors,
autre
curieusement,
chose.
Tu es venu dans l'horlogerie.
Oui.
Chez Raymond Veil.
Oui, j'ai rencontré Raymond Veil et Simone Béda.
Oui, Simone Béda aussi, voilà. J'ai connu, oui.
Et j'ai
Dame Rousse aussi.
Voilà, j'ai beaucoup aimé l'histoire de cette famille dans l'horlogerie, dans une horlogerie qui n'était pas encore industrielle. Donc il y avait encore voilà,
une vraie horlogerie.
Voilà, des maisons familiales et j'ai trouvé leur histoire tout à fait étonnante, ils étaient partis de rien, ils avaient construit une marque de qui vendait 500 000 montres par an, ce qui était beaucoup. Avec de très belles histoires comme Parsifal, passionné de musique classique.
Là, vous vous retrouviez.
Et on se retrouvait. Voilà, et donc c'était une belle rencontre humaine. Voilà.
Et là, tu n'es pas resté très longtemps.
Non, je ne suis pas resté très longtemps parce qu'en fait, ils étaient dans une phase de leur croissance très particulière avec le départ de Simone et Christian Bédard. Et la maison cherchait une nouvelle voie. Voilà. Et donc, ce n'était pas... C'était pas facile de trouver le quand vous êtes pas de la famille, c'est pas simple.
Oui, probablement. Alors là, tu pars dans quelque chose de tout à fait différent. Children Worldwide Fashion, qui était, paraît-il, à l'époque, le leader des vêtements d'enfants de luxe.
Alors, on l'a fait leader.
Ah, tu l'as rendu leader.
Voilà, c'est-à-dire...
C'était pas au départ.
Ah non, quand je suis arrivé, c'était une entreprise. Alors, c'était vraiment une histoire entrepreneuriale.
Là, on est en 2000...
On est en 96.
On est en 96.
Voilà. C'est une entreprise qui est leader du marché français du prêt-à-porter pour enfants, mais vendue en hypermarché. Et en un an, on va la transformer en leader européen du prêt-à-porter pour enfants sous marque internationale et 90% à l'étranger.
Ah oui.
Donc une transformation radicale de l'entreprise, très vigoureuse, avec beaucoup d'audace, beaucoup d'énergie, beaucoup de créativité. C'était du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des voyages partout, des distributeurs, des agents à trouver, des collections à valider. Je passais ma vie entre les rayons de collection et les distributions et le marketing. Il a fallu constituer à l'époque 6 bureaux de style avec des stylistes, des modélistes. Enfin, c'était un travail.
Tu étais heureux là, à cette époque-là?
Ah oui, c'était très 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 entrepreneurial et j'ai eu la chance de pouvoir y amener en plus une recapitalisation avec un fonds d'investissement. Donc c'était vraiment l'entrée dans un monde très très nouveau. Je passais 10 jours par mois aux États-Unis.
Ah oui.
Donc j'étais vraiment entre Donna Karan et Timberland et puis les marques européennes. Donc c'était là on avait franchi le cap vers l'international, vers l'ouverture à l'entrepreneuriat international sous transformation d'entreprise. Parce qu'en fait, c'était une transformation radicale dans l'entreprise.
Alors Marc, je vais te poser la même question que tout à l'heure. Qu'est-ce qui t'a fait quitter cette entreprise alors que tu y avais tellement bien réussi ?
Eh bien, après l'avoir revendue à ce fonds d'investissement et y avoir passé 6 ans, j'avais fait le tour de la question.
D'accord.
Et pour moi, la prochaine étape, c'était très simple, c'était le retail. Donc c'était de...
Au fond, c'était retrouver en grand ce que tu avais connu en plus petit chez tes parents.
C'est exactement ça. Exactement ça. Et il fallait, en fait, il fallait sécuriser ce qu'on appelle les actifs, qui étaient les marques sous licence. Même si on avait de très bonnes licences qui étaient très bien signées, ça n'était des actifs que temporaires. Et donc, mon idée était de dire, il fallait en faire des boutiques à l'enseigne. Et donc, quand vous aviez Burberry, quand vous aviez Timberland ou Donna Karan, eh bien, ou Kenzo, faire des boutiques à l'enseigne était quand même très fort. Ça aurait donné de la pérennité à la valeur de l'entreprise. Et là, on n'était pas tout à fait en phase avec, non pas le patron du fonds aux États-Unis, mais le patron du fonds en Europe, qui lui avait une vue assez différente. Et moi, je trouvais que l'entreprise était arrivée à son pic, ce qui était un peu le cas d'ailleurs après. Donc, il fallait déplafonner les parts de marché. C'était compliqué.
Alors, tu es parti vers autre chose et là, tu as habité une ville qui t'a inspiré pour la suite.
Oui. Après, ça a été...
On est en 2001. Là,
oui, après, ça a été l'aventure Escada entre Florence et Munich. Donc, partageant la vie entre Munich, le siège social... en tant que CEO, et puis Florence, où se trouvaient toutes les activités produits.
Alors, on va en parler tout à l'heure. En attendant, qu'est-ce qu'on écoute ?
Eh bien, un peu de douceur dans
ce monde de brut.
Dans ce monde de brut. même si on est à Genève et que tout est feutré. Donc, c'est la symphonie numéro 3 de Brahms, le troisième mouvement, dont Serge Gainsbourg a fait d'ailleurs une version tout à fait étonnante et que tout le monde va reconnaître.
Radio Cité Genève. Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine. Thank you.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans la bouteille à moitié pleine avec Marc Lelandais, un grand patron français du luxe dont nous voyons les différentes expériences. Il grandit peu à peu, il fait des choses très différentes, à des stades très différents. Et maintenant, Marc, te voilà en 2001 à Florence pour Escada. Alors, ça, c'est totalement différent. Là, tu es vraiment dans le textile?
Oui, alors, oui et non, parce que Escada, bien sûr, est une grande maison de textile. Mais il y avait beaucoup de produits de diversification qui étaient en germe et qui n'avaient pas été complètement structurés. Notamment les accessoires, les sacs, les chaussures, jusqu'à même une ligne de joaillerie, les parfums, toute la lune.
Ça permet beaucoup de choses, la mode féminine, au fond.
Oui. Et ce qui était intéressant, c'était de convertir le style imaginé par Margaret Halley, de la garde-robe féminine en 12 couleurs et de le traduire en produits de diversification et en accessoires notamment. C'était quelque chose d'assez intéressant. D'un côté, la culture allemande d'une marque allemande basée à Munich.
C'était très allemand, parce que moi, je me souviens, c'était, oui, comme c'était très structuré. J'aimais beaucoup à l'époque ce qui était très structuré, mais trop.
Il y avait un petit côté
ça fait militaire.
Il y avait un petit côté Catherine Zeta-Jones et Ivana Trump dans cette marque,
un peu.
Qui était effectivement très très top to toe,
oui,
on va dire,
ça.
Voilà, très top to toe.
Oui.
Mais ça correspondait aussi bien aux années 80. C'était la garde-robe des années 80 et même là il y avait vraiment bien pigé ça. Donc on avait un pied à Florence, un pied à Munich, avec le évidemment la créativité des Italiens, des artistes italiens. J'avais un designer à Milan qui était génial. Le souvenir que j'ai gardé de cette époque qui était formidable, c'était le temps passé sur le produit avec les stylistes dans les usines.
D'accord. Alors
c'était du fou.
De la création.
Oui, c'était de la création du produit.
L'imagination.
Du produit, toute la journée et l'apprentissage humble de comment on fait une belle sandale, une belle chaussure, un beau sac, une belle montre, etc.
Alors tout ça dure 4 ans.
Oui.
Tu sautes de branche en branche puisque tu vas vers les stylos Dupont en 2005.
Oui.
Alors là, pourquoi ?
C'est la rencontre avec le propriétaire de Dupont qui me dit voilà j'ai cette marque depuis pas mal d'années, c'est une marque de luxe merveilleuse avec des codes superbes, il y a moyen d'en faire quelque chose dans l'homme il faut lui donner plus de substance, plus de force et lui trouver un positionnement nouveau. Alors c'est un travail. Là j'initie quelque chose de compliqué parce que je me rends compte que d'un côté il y a une envie, une volonté, et puis de l'autre il faut que les moyens financiers soient mis en face. Et le rapport qu'on peut avoir en tant qu'actionnaire propriétaire avec une maison, une marque, il faut qu'il soit rationalisé à un moment donné par rapport à ses objectifs. On est dans une situation où cette maison à un fond de commerce qui est le briquet. Voilà.
Le briquet Dupont.
Voilà, dans un marché en total.
On en a tous eu.
En totale dérégulation.
Le briquet,
c'est un marché qui n'est plus l'expansion.
Bah et donc il faut. Moins en moins de fumeurs. Donc,
voilà, il faut changer, les pouvoirs publics contraignent. Il faut donc changer l'ADN profond de cette maison, avec des codes merveilleux. Et donc je vais proposer progressivement un de recapitaliser. Et c'est important parce qu'autrement on peut pas.
Et là tu trouves des Chinois.
Et oui, voilà. Donc c'est la solution pour le faire. Il n'y a pas 36 solutions à ce moment-là.
Bien sûr.
Et l'idée est de transformer la maison, notamment vers le stylo, et donc de l'amener vers l'accessoire pour homme de luxe. Voilà. Et donc ce sera un business
plan. Et là, ça a été compliqué.
Et il faut se mettre d'accord, et pour se mettre d'accord, il faut qu'il y ait un alignement des astres. Ce qui n'est pas le cas. Donc, je.
Alors, on passe à autre chose.
800 pages de business plan, et puis je dis non, ça marchera pas.
Et alors, Marc, tu ressortes sur tes deux pieds, et en 2006, tu débarques chez Lancel.
Oui. Alors c'est Norbert Platt qui et Wolf Heinrich Dorf qui m'appellent, l'un PDG de Montblanc, l'autre CEO du groupe Richemont, et qui me disent on a une maison dans le groupe qui est pas du tout dans l'horlogerie et on sait pas très bien quoi en faire et puis on n'a pas très bien réussi depuis 8 ans. On a un peu cumulé les expériences de hasardeuses de management mais aussi de direction produit. Il paraît que t'as du caractère et des idées et que tu sais les mettre en œuvre. As-tu une idée, voilà.
J'ai eu plein d'idées.
Oui, beaucoup d'idées.
Particulier sur les sacs.
Sur les sacs. Alors d'abord, l'idée de base, c'était de dire, c'est une maison de bagages, mais le bagage n'a pas de valeur ajoutée. Et donc, on ne fait pas de marge avec le bagage. Donc, il faut changer vers quelque chose qui soit beaucoup plus vecteur d'image et de marge. Et c'était le sac à main féminin et la petite maroquinerie.
Et là, tu as trouvé des idées formidables.
Là, il a fallu faire preuve d'inventivité. Donc, l'idée, c'était de dire, pour raconter des histoires, il faut aller chercher dans l'origine de la marque. C'était une très belle maison de 1876 qui était créatrice de Madame
Parce
Lancel.
Que personne ne savait. Hein.
Personne ne le savait. Madame Lancel avait créé des sacs merveilleux, des sacs avec plein d'artisans d'art à l'époque, des joailliers, des sertisseurs. Enfin, il y avait plein de choses qui étaient. Donc, on a exhumé toutes les archives, on les a achetées chez les antiquaires, on a créé un musée, et puis après on s'est dit, mais comment convertir cette modernité de cette femme lionne de boulevard de 1876 à 1900 dans les années 2000 et l'idée c'était de dire de demander à des femmes de dessiner, des femmes connues de dessiner leur propre sac pour raconter leur vie au travers d'un sac, ce qui est un exercice très intéressant, parce qu'il faut rentrer dans la psychologie de la femme, et aussi rentrer dans sa vie. Quand on fait un sac avec Isabelle Adjani, on se rend compte qu'en fait, son sac, c'est sa maison. Elle transporte tout dedans.
C'est le cas de beaucoup de femmes. Hein.
C'est le cas de beaucoup de femmes. Alors, c'est très transgressif, hein, Viviane, de demander à une femme de vider son sac devant
son
soi.
Sac.
C'est très transgressif.
Là, mon Dieu, oui.
Et j'ai fait cet exercice pendant pas mal de temps, avec pas mal de femmes. Parce que c'était...
Là, tu retrouves ton air espiègle de petit garçon. Hein,
oui,
je te signale.
Oui, c'est un peu transgressif. Mais du coup, ça permet d'entrer très vite dans des discussions qui sont vraies et qui sont intéressantes. Et donc, voilà, on va faire la Jenny, on va faire le Bardot, on va s'amuser à faire des choses qui vont très bien marcher et qui vont incarner finalement une toute autre ambiance pour la marque.
Qu'est-ce qu'on écoute maintenant ?
Eh bien, on va écouter quelque chose de dynamique et de léger, qui sont les variations Goldberg de Bach par Glenn Gould.
Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine. Thank you.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans la bouteille à moitié pleine avec Marc Lelandais, un grand patron français du luxe qui, comme on l'a vu, a fait beaucoup de choses dans sa vie, a développé beaucoup d'entreprises dans des secteurs différents. On vient de voir avec Lancel et les fameux sacs. Et puis ensuite, 2012, bah, suivant ta bonne habitude, tu as décidé de faire autre chose et de voir autrement.
Oui, en 2012, je me dis, bon, j'ai fait pas mal de repositionnement, de reconstruction de marque, de sauvetage, de réinvention d'entreprise, parce que c'est ça le sujet. Donc, c'est pas des restructurations, c'est des réinventions. Et je tiens beaucoup à ce mot, puisque l'idée, elle est quand même...
Il est plus flatteur.
Oui, mais c'est juste. Je n'ai jamais signé un plan social. Jamais.
D'accord. Et ça, c'est très beau.
Ce qui est important, on m'a même à un moment donné qualifié de patron de gauche. C'était quand même assez.
Eh bien, pourquoi pas?
Eh bien, il faut assumer la défense de certaines
valeurs.
Il faut avoir
le cœur à gauche et le portefeuille à droite.
Mais exactement. Les entreprises sont faites par les hommes et les financiers apportent les moyens aux entreprises. Donc c'était beaucoup de réinvention d'entreprise et je me suis dit, mais voilà. Et puis une rencontre à nouveau, hein, c'est toujours des rencontres, avec un patron de fonds, on va dire un grand fond de Big Cap qui s'appelle Lionel Giacomotto, patron de Charterhouse à Saint-Paul à Londres, me dit voilà, j'ai un groupe français de distribution, leader de textiles et de chaussures, qui va pas bien, qui a été monté dans une technique qu'on appelle le LBO dans les années 2000, donc dans une certaine exubérance financière où on croit que les arbres vont monter jusqu'au ciel, où l'entreprise s'endette et doit rembourser son capital investi.
Beaucoup de grands patrons ont fait leur fortune comme ça.
Oui, c'était des années un peu curieuses. En fait, c'est très paradoxal. Le LBO, c'est deux choses. C'est à la fois ça, donc il y a une question éthique derrière le LBO, qui, si on le prend sous l'angle anglo-saxon, n'est pas un problème. Si on le prend sous l'angle des valeurs d'entreprise, c'est une autre histoire. Et donc, il y a beaucoup d'inhumanité dans beaucoup de montages de cette nature qui fait que l'argent investi est un argent de dette. Or, quand on endette une entreprise au-delà de sa capacité de remboursement, ça ne fonctionne pas. Alors, quand on est sur des secteurs d'activité de biologie moléculaire à très forte croissance, à deux chiffres, avec des plans à 5 ans, il n'y a pas de problème. Mais quand on est sur des entreprises qui suivent le PIB, c'est-à-dire qui sont à 1,x% de croissance par an, le moindre coup de grisou, la moindre tempête sur les marchés, et ces entreprises deviennent incapables de rembourser la dette que les actionnaires ont contractée pour elles. Alors, je rentre chez Vivarte, j'en prends la présidence, 23 entreprises, 23 PDG, une complexité incroyable, une belle cavalerie financière et des sous-investissements dans les...
2 milliards d'endettement, hein, je crois.
2 milliards...
C'est ce qu'a dit la presse.
2 milliards 8.
2 milliards 8.
Pour 3 milliards de chiffre d'affaires. C'est-à-dire quasiment le niveau du chiffre d'affaires en endettement. La moindre petite tempête et l'entreprise est sur le flanc. Ouais. Évidemment, le marché a changé. On est dans une époque où il y a une dématérialisation des flux par le net, hein, tout simplement. Le net change l'offre et la demande. Et cette entreprise est totalement asphyxiée par ses prêteurs, ses banques, du haut, du bas, et va devenir donc la proie très rapidement de ce que l'on appelle les fonds vautours. C'est-à-dire que quand une entreprise comme celle-là a des actifs, qui sont ses marques, ses entreprises et ses réseaux de magasins, des fonds, d'autres fonds de dette, plus crocodiles que ceux qui ont investi initialement, vont voir la possibilité d'acheter à vil prix ces entreprises et de les revendre en faisant de très jolies plus-values. Alors ça se passe pas toujours comme ça, parce que ça c'est le modèle, on va dire, le modèle économique idéal pour le fonds vautour, mais la réalité c'est qu'évidemment, parfois ça coince et c'est beaucoup plus compliqué. Là on est sur un débouclage, un LBO qui est le plus gros LBO en Europe, donc c'est très financier. Il y a plus de 140 fonds d'investissement qui sont dedans. C'est quasiment une entreprise cotée, hein. On a à peu près le même principe. Et donc, il va falloir, sous le coup des changements de marché et du retournement de la conjoncture, il va falloir réunir tout le monde autour d'une table et leur apprendre à dire, j'abandonne. j'abandonne la dette que j'ai mis dans l'entreprise. Enfin, j'ai rien mis en définitive, je n'ai rien investi. J'ai demandé à l'entreprise de se rembourser par sa croissance. Elle n'est plus capable de faire
sa croissance.
En fait,
on perd l'espoir de gagner. C'est plutôt ça.
On perd l'espoir de gagner. Et dans une logique financière, on peut reporter à l'infini le problème tant que ça survit. Mais l'entreprise, elle, elle a besoin d'investissement dans les magasins, sur les systèmes d'information, sur les sourcing. Évidemment, elle n'est plus capable de le faire.
Alors, je crois que tu as réussi à trouver 500 millions de cash. On a dit que c'était à l'époque le record européen de l'effacement de dettes dans une entreprise privée.
2 milliards. Voilà.
En fait, ça
va te faire sourire, mais c'était une campagne napoléonienne. C'est-à-dire que, qui durait.
Ça me parle.
Qui durait 8 mois. Et il fallait en 8 mois mener Wagram, Iéna, Marengo, Austerlitz, sans faire de Waterloo, et exiger de ces 140 fonds qu'ils abandonnent 2 milliards de dettes pour laisser l'entreprise une chance de survie. Et je leur ai demandé, en plus, c'est un peu peut-être la double peine, mais je leur ai demandé en plus de réinvestir 500 millions d'euros de cash. Parce que il fallait corriger complètement le montage de ce LBO. Bon.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, je réussis à leur faire écraser 2 milliards de dettes, donc c'est le record mondial de l'effacement de dettes. C'est une réinjection de 500 millions. Mais la mécanique et la logique qui prévaut dans cet endettement, dans ces fonds de dette et dans ces fonds vautours, est une mécanique très particulière où on n'est finalement pas du tout dans la construction de l'entreprise, de la construction de valeur. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, une succession de PDG après moi, 4 ou 5 PDG après moi, qui restent quelques mois, ça se passe très mal. Et malheureusement, malgré l'écrasement de dette et malgré les 500 millions d'euros de cash réinjectés, eh bien, cette entreprise sera démantelée.
Avec à la clé des licenciements massifs, ce massif, qui est scandaleux.
Massif. Donc, et c'est une très jolie leçon de restructuration. Pour le coup, je prononce le mot de restructuration financière, parce que peut-on sauver une entreprise endettée à ce degré-là, dans un marché où il n'y a pas de croissance? On peut déplacer les meubles dans l'appartement, mais on ne fait pas grand-chose d'autre. Si elle est mal partie dans l'endettement, on n'arrivera pas à la remettre sur les rails, probablement.
On va écouter quelque chose d'un peu plus léger, hein, parce que là, on est dans la tristesse absolue.
Voilà. Eh bien, alors, la vie parisienne d'Offenbach, ça s'impose.
Radio Cité Genève.
La bouteille à moitié pleine.
Thank you.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans la bouteille à moitié pleine avec Marc Lelandais. Alors là, Marc, en 2014, t'en as eu assez de tout ça. T'en as eu assez parce qu'en fait, tu avais vu le démantèlement d'une entreprise qui aurait pu vivre. Tu as vu à l'action ces fameux fonds vautours et tu n'avais jamais fait de plan de licenciement. Et là, tout d'un coup, il y en avait un massif. C'était fini. Alors, comment as-tu rebondi et qu'est-ce que tu as inventé cette fois-ci?
Dans ce genre d'aventure, après, on a besoin de faire une pause. Une pause par rapport à tout simplement une idée, c'est que on a probablement contenté pas mal de curiosité et on a aussi on s'est vacciné de ces illusions. Donc, on se dit, OK, revenons à des choses qui passionnent, qui animent. Et comme toujours, c'est une rencontre que je fais avec une agent britannique qui m'appelle et qui me dit, pareil, que vous êtes passionné de la première Renaissance. J'ai un domaine royal de la première Renaissance à vendre dans Amboise. Alors, sur le coup, j'ai failli raccrocher, je m'en souviens très bien, en disant, écoutez, chère madame, un domaine royal dans Amboise, je vois pas bien lequel ça pourrait être à part le château d'Amboise. Donc vous n'allez pas me vendre le château d'Amboise. Il me dit oui, il fait 15 hectares. Je dis un domaine royal de 15 hectares en France, en ville, dans Amboise. Je ne vous crois pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et donc je suis un peu piqué quand même parce que je me dis voilà, je vais sur Google, je vois rien du tout parce que il y avait rien. Et en fait, c'est une histoire tout à fait folle, parce que j'envoie un mot à Gonzague Saint-Brice, qui est à l'île Maurice à ce moment-là. Je lui dis, Gonzague, est-ce que tu connais Château Gaillard? Et il me dit, ah oui, Chategaille, je connais très bien. C'est mitoyen de chez moi, le Clos Lucé. Et on l'appelait Chategaille quand on était petit, on allait y jouer, mais il reste plus rien, c'est en ruine. J'ai dit, non, il reste toujours quelque chose, il y a toujours 15 hectares, et c'est debout. Bon. Et puis, je m'y rends. Voilà. Et là, le choc total, en quelques secondes.
Tu es tombé amoureux.
Oui, c'est vraiment ça. Ce joyau blanc, sculpté, en plein milieu de la nature, en plein cœur de la ville d'Amboise, invisible de partout dans Amboise, une sorte de paradis royal oublié.
Ça fait rêver ce que tu dis.
Et la stupéfaction émerge tout de suite parce que la nature est omniprésente, elle a tout envahi, mais on voit qu'on aperçoit les parterres, et puis on voit cette façade blanche absolument inouïe, éclairée plein sud, qui émerge de la nature avec des joyaux partout. En fait, la sensation que j'ai eue à ce moment-là, c'est que j'allais croiser Adam et Ève, à chaque recoin, chaque bosquet. C'était très curieux. J'étais avec mon labrador, qui lui trouvait la source formidable pour se baigner dedans. Et c'était un 23 décembre, donc il faisait pas chaud. Mais c'était un lieu totalement immaculé. Alors, la stupéfaction a continué avec l'histoire du lieu. Il s'agissait d'un château, le premier château Renaissance, voulu, rêvé par un jeune roi qui s'appelle Charles VIII. Et Charles VIII est parti conquérir l'Italie, notamment l'Italie des villes et l'Italie de Naples. Il est tombé amoureux de la villa Poggio Reale du roi Ferdinand d'Aragon à Naples, et qui est marié à Isabelle de Castille. Et les jardins de Poggio Reale sont des jardins tout à fait extraordinaires. On n'a pas vu ça jamais. Ce sont des jardins qui finalement réincarnent l'Antiquité. Un homme est à la tête de ces jardins, il s'appelle Don Pacello de Mercogliano. C'est un moine bénédictin napolitain, et il est considéré comme...
Et là, on est en quelle année?
On est en 1500. Il est considéré comme le plus grand génie de son temps en matière de jardin. Voilà, on l'appelle le plus grand jardinier de l'Europe. Alors Charles VIII va revenir avec ses 10 000 chevaliers, il est parti conquérir l'Italie, et va revenir avec 22 artisans italiens. Alors ils sont sculpteurs, peintres, mosaïstes, c'est une joyeuse cohorte d'artisans italiens qu'on n'appelle pas des artistes à l'époque, des gens de mestier, on les appelle, et vont venir à Amboise pour y fonder la première Renaissance française, le Quattrocento français, transposer l'Italie à Amboise. Et Château Gaillard, c'est le rêve de ce jeune roi, Charles VIII, qui va vouloir transposer un palazzotto italien pour la première fois. Mais il va pas s'arrêter là, puisqu'il va, il va demander à Pacello de faire ses jardins. Donc on a les premiers jardins de la Renaissance française. Et ce Pacello, très inventif, dans l'art de l'alignement des perspectives, il faisait des parquets et non pas des parterres, est en fait le père des futurs jardins à la française. Il invente la broderie, il cultive les simples, il brode, il sculpte les simples.
Qu'est-ce que c'est que des simples, Marc?
Les plantes simples, c'est le romarin, le thym, le laurier, la sauge et la lavande. Voilà, c'est ça les simples. Donc lui part du principe qu'un jardin doit être aussi beau en été qu'en hiver. Il fonde un art qu'on appelle l'arte del verde. Et ce jardin, aussi beau en été qu'en hiver, il va le définir par ses parquets, les parquetti, et des minéraux colorés. Donc il joue avec les minéraux colorés et la végétation.
Alors tu retrouves tout ça, j'imagine, parce que tu veux faire des recherches approfondies. Et comment est-ce que tu passes de cet espace abandonné, envahi par la végétation folle, à ce qu'il est aujourd'hui ? À savoir la reconstitution parfaite.
Alors,
c'est de ce que tu as lu dans les livres.
Voilà, c'est une œuvre. Hein. C'est le passage en Italie, c'est l'ouverture à toutes ces villeggiaturas italiennes et cette culture du Quattrocento à Naples, à Rome, mais aussi évidemment en Toscane. Donc mes années italiennes qui m'ont donné un œil, une perspective qui fait que je comprends tout de suite que ce lieu est italien et qu'il n'est pas français. Et donc l'idée va être de faire appel à des artisans, des métiers d'art, des ébénistes, des vitraillistes, des céramistes, des couvreurs. Et tous ces métiers d'art, on va leur demander pendant 5 ans de restaurer Château Gaillard et de le restituer totalement son âme, son jus de 1496, de 1500. C'est-à-dire, la chance, c'est que cette maison n'a jamais été abîmée par les siècles postérieurs.
Elle est oubliée au fond.
Complètement oubliée, complètement abandonnée.
Et le jardin alors, les fameux orangers?
Alors Pacello avait c'était le pape des orangers. Il adorait les orangers, il dormait au-dessus de ses orangers. Et il va apporter et acclimater à Château Gaillard les 40 premiers plants d'orangers en France. Qui sont des orangers amers, hein, des bigaradiers. Et il va tomber sur un problème, c'est qu'il ne peut pas les planter dans le sol. Donc il est obligé d'inventer les caisses à orangers. On les appelait à l'époque les caissettes ou les caisses d'empotage. Donc il va inventer les caisses à orangers, il va aussi créer la première orangerie. Alors, elle s'appelle pas orangerie, il l'appelle la limonaya. La limonaya qui abrite les agrumes, les citrons, qui est une sorte de portique à oranger, comme on pourrait l'imaginer. Et cette limonaya, on l'a restaurée, elle est en façade sous le château, et elle est très surprenante parce que elle est très très haute, et elle est semi-troglodytique. Donc, c'est un astucieux. Il invente la sériculture en serre chaude dans les troglos. Il va créer la première perspective axiale devant un château en France. Il va créer ces fameux parquets qu'on appelle les parquets des quatre fleuves du paradis, l'eau, le vin, le lait et le miel, avec la fontaine centrale qui jaillit au milieu. Il s'est inspiré des Arabes, évidemment. On est à Naples. Et il crée des alignements. Hein. C'est un homme qui va créer de la perspective par l'alignement.
Alors, tu reconstitues tout ça.
Oui.
Dans quel but ?
D'abord dans un but, très honnêtement au départ, c'est un but esthétique. Voilà, c'est une démarche esthétique de sophistication qui est plaisante parce que montrer le génie de l'Italie.
Mais alors ensuite, tu as envie de l'ouvrir au public.
Mais en fait, c'est un pur concours de circonstances. Nous décidons de l'ouvrir au public. Le premier jour où on l'ouvre au public, c'était le jour de mes 50 ans. Et on a 1000 personnes qui viennent.
1000 personnes.
1000 personnes qui viennent.
Et qu'est-ce que tu avais fait comme promotion,
rien
quoi, l'as du marketing.
Rien du tout. Un petit article dans le journal local, La Nouvelle République, et ce petit article a généré un assaut de visiteurs. Donc on s'est retrouvé avec 1000 personnes. Et là, on s'est dit, mais en fait, le lieu est insolite et le lieu plaît. Et toute la journée, on a eu des visiteurs de Touraine qui étaient ébahis, stupéfaits, totalement émus par ce lieu. On s'est dit, mais en fait, il faut l'ouvrir.
Voilà. Alors, aujourd'hui, tu as 40 000 visiteurs,
oui.
Je crois,
oui.
Ce qui est extraordinaire. Oui, il faut expliquer à nos auditeurs, il faut que tu dises à nos auditeurs comment y aller Et où ça se trouve?
Alors, c'est à Amboise. Amboise, c'est tout près de Tours.
C'est en Touraine.
C'est entre Blois.
En France.
Voilà, c'est entre Blois et Tours. C'est en Touraine, dans la Loire-Vallée. C'est à 1h30 de Paris. 50 minutes de TGV, donc c'est rien du tout.
Et de Genève?
Et de Genève, ça doit se faire en avion, mais ça se fait aussi en TGV. Je pense qu'en 5 heures, c'est faisable. Donc,
pas loin, donc.
Donc, c'est pas loin. C'est une ville.
Il y a de l'hébergement sur place?
Il y a 50 hôtels. À Amboise, 8 4 étoiles, 50 restaurants. C'est une petite ville de 15 000 habitants, intacte, qui n'a pas été bombardée, qui est magnifique, et qui est un petit joyau en tant que tel. C'est une ville bénie des dieux, puisqu'elle a accueilli Jules César, Léonard de Vinci, François Ier, et bien d'autres, jusqu'à Michel Debré. C'est une ville très, très gâtée par les hommes.
Alors, Marc, il faut que tu nous donnes le site et les indications pour y aller.
Voilà.
C'est essentiel.
Alors, le site, eh bien, il faut nous suivre sur Instagram, Facebook, LinkedIn, on est partout.
Alors, et ça s'appelle donc?
Et ça s'appelle Château Gaillard à Amboise.
À ne pas confondre avec le Château Gaillard.
Des Andelys, celui de voilà. Richard Cœur de Lion en Normandie. Là, on est bien dans la Touraine, mais c'est vrai que ce nom Château Gaillard est un nom très ancien qui date des Gallo-Romains, donc
bien
on
sûr,
le retrouve assez
bien
souvent.
Sûr. Tu as un numéro de téléphone? Tu as quelque chose qu'on peut...
On a un site internet.
D'accord, sur lequel il y a tout.
Domaine Royal Château Gaillard, voilà. Et une adresse email qui est domaineroyalchateaugaillard@gmail.com. Et en allant sur internet, on le trouve tout de suite. Château Gaillard Amboise.
Alors j'espère que beaucoup de nos auditeurs vont découvrir ce joyau de la Renaissance italienne en France. Et puis surtout, Marc, on arrive au terme de cette émission, beaucoup trop courte. Je te réinviterai certainement pour d'autres aventures et d'autres passionnantes histoires. Merci d'être venu au micro de Radio Cité Genève. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on écoute?
Merci Viviane. Écoute, on termine avec quelque chose d'un petit peu plus contemporain, même si ça a déjà une quinzaine d'années, un titre qui s'appelle Promise Me de Beverley Craven.
Et on remercie Olivier Steinmetz qui a enregistré cette émission. À bientôt.
Merci.
Radio Cité Genève. Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
You light up another cigarette and I pour the wine. It's 4 o'clock in the morning and it's starting to get light. Now I'm right where I wanna be, losing track of time. But I wish that it was still last night. You look like you're in another world, but I can read your mind. How can you be so far away, lying by my side? When I go away, I'll miss you, and I will be thinking. I'm not afraid to die.